Bonjour à tous.
Laetitia a allumé la deuxième bougie.
Elle a remarqué que Véro s'était trompé. Effectivement, c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Depuis dimanche dernier, nous sommes dans cette période de l'Avent, cette période qui précède Noël, cette période de 4 semaines avant Noël. Et c'est quand même réconfortant quelque part de savoir que partout dans le monde, tous les chrétiens se préparent à commémorer la manifestation de Dieu dans l'histoire de l'humanité, à la personne de Jésus-Christ. Et bien sûr, chacun prépare à cette fête à sa façon. Et d'une certaine façon, on peut dire que le contenu spirituel de cette commémoration, ça va dépendre de cette préparation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette période, quelque part, est caractérisée par l'attente de chacun. L'attente de quelque chose, de quelqu'un qui est important pour la personne en question. J'aimerais vous inviter ce matin à méditer sur le thème de l'attente dans les Écritures. Plus exactement, l'attente de Dieu. Je crois que chaque croyant, d'une certaine manière, s'attend à Dieu dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et Henri a évoqué Moïse ce matin durant le moment de durant la présidence. Moïse attendait de voir le pays promis. Dieu lui avait fait cette promesse, pardon, et c'est vrai qu'il n'est pas rentré dans le pays promis, mais d'une certaine façon, Moïse a vu Dieu. Et il y a quelques semaines, on a eu toute une série de messages sur Abraham, et là aussi, nous avons vu que Abraham était dans l'attente de la réalisation de la promesse que Dieu lui a faite. Abraham a répondu à l'appel de Dieu et pendant longtemps, il attendait Dieu. Et si nous regardons au travers de toute la Bible, on retrouve cette notion d'attente de la part des croyants, de la part des hommes de Dieu. Ils attendaient Dieu d'une certaine façon, en des contextes différents, en des situations différentes, mais il y avait toujours cette attente. C'est vrai que c'est un sujet assez vaste. Et il faudrait peut-être faire de grandes études théologiques pour bien aborder le sujet, surtout les premiers ce matin. J'aimerais juste vous inviter à méditer sur deux points concernant ce thème de l'attente de Dieu, deux points qui m'ont interpellé, comme on dit en général, suite à une lecture que j'ai faite il y a déjà quelques moments déjà. Alors ces deux points, avant même de vous soumettre les deux points, on peut noter aussi que lorsqu'on arrive à la fin de la Bible, il y a aussi cette notion d'attente. Dans Apocalypse chapitre 22, la Bible, les paroles qui terminent ce chapitre, c'est Amen. Bon, ça c'est avant la dernière phrase. Amen, viens Seigneur Jésus. Il y a une attente de la part de nous qui sommes croyants. Les deux points que j'aimerais souligner avec vous ce matin, c'est l'attente comme une attitude spirituelle. L'attente du croyant, une attitude spirituelle. Et le deuxième point, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre, tout simplement. C'est comment attendre. Pour le premier point, je vous invite à faire une lecture dans... On va lire deux passages dans la Bible. Le premier passage, c'est dans Jean chapitre 5, les 10 premiers versets. Jean 5, les versets 1 à 10. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Et la deuxième lecture dans Luc chapitre 2, le passage que Henri ne voulait pas lire. Luc 2, les versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit Jésus, le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous avons là deux extraits des Écritures qui nous permettent de saisir davantage, d'une certaine façon, le sens du fait de s'attendre à Dieu. Dans le premier passage, la première lecture qu'on a faite dans Luc chapitre 5, nous voyons Jésus qui vient de guérir un homme malade depuis 38 ans. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, nous dit le texte, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'est un grand miracle. C'est une merveille, comme on vient de le dire. Jésus a tendu la main à un homme qui était méprisé par tous les gens qui le côtoyaient tous les jours. Il était là, personne ne prêtait attention à cet homme. Jésus lui a fait grâce. Jésus a répondu d'une certaine façon à son aspiration la plus profonde. Et j'imagine que cet homme était dans la joie parce qu'il attendait cela depuis longtemps. Et face à cette ce miracle, cette manifestation de la puissance de Dieu, le texte souligne l'étrange réaction des chefs religieux. Qu'est-ce qu'ils disent face à cette manifestation de Dieu? Ils disent à cet homme qui a fait l'objet de cette guérison, tu n'as pas le droit de porter ton lit le jour du sabbat. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Effectivement, pour ces religieux, le plus important, c'était le sabbat. Le plus important pour eux, c'était le respect de certaines règles. Et je crois que ces règles, d'une certaine façon, les aveuglaient et les empêchaient de voir Dieu à l'œuvre. Oui, c'est triste de voir des hommes qui ont la loi réagir de cette façon face à une merveille de Dieu, face à une manifestation divine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré, d'une certaine façon, s'enfermer dans leur façon de penser, dans leur cadre théologique. Que nous révèle, d'une certaine façon, cette attitude de ces chefs? C'est quelque chose de très simple. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas disposés à voir Dieu. D'une certaine façon, ils étaient enfermés dans leur religion, dans leur système. Ils pensaient tout savoir de Dieu. Ils pensaient avoir tout expérimenté avec Dieu. Ils n'attendaient pas Dieu. Et curieusement, c'était le jour du sabbat, le jour consacré à Dieu. Et ce jour-là, ils n'attendaient pas Dieu. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Quel est l'objet de notre attente ce matin? Est-ce que nous attendons Dieu dans notre vie de tous les jours? J'espère que oui. Mais il y a des choses parfois qui peuvent nous empêcher de voir Dieu à l'œuvre. Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est notre religion? Est-ce que ce sont nos activités d'église? Nos idées préconçues sur la manière dont Dieu doit agir dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie? Et je crois que c'était le cas pour ces chefs religieux. Jésus-Christ ne devait pas faire ce miracle-là un jour de sabbat. Le jour de sabbat, le jour consacré à Dieu, ce n'est pas possible. Mais je pense que pour nous aussi, si nous nous enfermons Dieu dans notre religion, dans notre raisonnement, si nous ne sommes pas prêts à apprendre sur Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, le résultat sera le même pour nous. Nous ne pourrions pas voir Dieu, nous ne pourrions pas identifier l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans la vie de nos proches, dans notre entourage. Ce passage nous permet de comprendre une chose, c'est la suivante, c'est que pour le croyant, s'attendre à Dieu, c'est être toujours en quête de la manifestation de Dieu. Bien sûr, Dieu s'est manifesté, comme on l'a déjà souligné au début de ce culte, à la personne de Jésus-Christ. Il s'est révélé à toi, il s'est révélé à moi, il s'est révélé à nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions cette manifestation dans toutes les situations de notre vie. C'est que chacun de nous ait le désir de voir l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans son entourage. Quelque part, ma vie de croyant doit être une quête, une attente de Dieu à tout moment. Je dois pouvoir, d'une certaine façon, rester avec les mains ouvertes pour accueillir la grâce de Dieu à chaque étape de ma vie, en toutes circonstances. Est-ce que c'est le cas pour moi? Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Sommes-nous toujours disposés à voir Dieu Dieu agit hein, dans la vie de ceux qui nous entourent. Est-ce que nous le voyons toujours? La deuxième lecture qu'on a faite dans Luc chapitre 2 nous donne un bon exemple. C'est cette rencontre de Siméon avec l'enfant Jésus. Le texte nous dit que Siméon était âgé. Et il a attendu longtemps ce moment. Mais tout ça n'a pas aigri Siméon. Tout ça ne l'a pas découragé. Et je crois que dans notre environnement, il y a pas mal de choses qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous détourner de Dieu. Et toutes ces choses, parfois, nous empêchent de voir l'œuvre de Dieu et de le louer. Eh bien, Siméon n'était pas victime, d'une certaine façon, de tout ça. Le texte nous dit aussi que Siméon avait la loi. Il avait la loi comme les chefs religieux qu'on a vu dans Jean chapitre 5. Il est dit de Siméon, il est juste et pieux, c'est-à-dire quelqu'un qui est droit devant Dieu et qui observe d'une manière irréprochable tous les commandements du Seigneur, d'après la définition qu'on trouve dans Luc chapitre 1er, le verset 16. Mais Siméon a su rester vigilant à toute manifestation de Dieu. Il ne s'est pas laissé enfermer dans des schémas au point de passer à côté de ce qui est essentiel. Siméon était disposé à accueillir la grâce de Dieu. Au verset 25 de Luc chapitre 2, il dit « Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. » Quelque part, Siméon désirait profondément vivre cette manifestation de Dieu. Et au moment venu, nous voyons dans le texte, c'est pas quelqu'un qui a amené Siméon au lieu de la révélation, au lieu de la manifestation de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu même qui conduit Siméon. Siméon est allé au temple le jour où Marie et Joseph devaient présenter cet enfant. L'Esprit de Dieu l'a conduit. Et là, dans le temple, il a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Et tout de suite, il a eu cette conviction que l'enfant qu'il avait dans ses bras, c'était le Messie, le sauveur que Dieu avait promis à son peuple, le sauveur du monde. Siméon voit dans cet enfant ce que d'autres ne voient pas. Il voit en l'enfant Jésus qu'il tenait dans ses bras une visitation de Dieu, du Dieu de la justice, du Dieu de la miséricorde. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et qui vient faire sa demeure parmi nous. Siméon voit en Jésus la lumière du monde. Et il voit aussi en Jésus une cause de division. D'une certaine façon, cette révélation, comme Siméon était prêt pour ça, cette révélation ne l'a pas laissé indifférent. Siméon n'est pas resté neutre face à cette manifestation de Dieu, parce qu'il était prêt à voir Dieu. Il attendait cela. Il a vu Dieu parce qu'il attendait Dieu. Attendons-nous Dieu ce matin, dans les situations, dans toutes les situations de notre vie. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, ce qui est certain, c'est que Dieu intervient, il est à l'œuvre, il est prêt à intervenir pour manifester sa toute-puissance dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Mais est-ce que je suis disposé à le voir? Comment nous nous préparons tous les jours pour recevoir Dieu, pour le voir? Henri, durant la présidence, nous disait qu'il y a pas mal d'éléments dans notre vie, dans notre quotidien, qui peuvent nous perturber, qui nous empêchent vraiment de rester dans cette communion avec Dieu. Et Ce sont ces choses-là qui nous éloignent. Ce sont ces choses-là qui nous empêchent de voir comment Dieu agit. Dieu agit dans la vie de ton frère, à l'église, dans la vie de ta sœur. Et parfois, on a souvent tendance à souligner ce qui ne va pas, à voir surtout ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Et pourtant, Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Et je crois que si on est dans cette disposition, de cette même disposition que Siméon avait, même si mon frère n'est pas parfait, même si ma sœur n'est pas parfaite, je peux voir quand même Dieu dans sa vie, parce que Dieu agit. D'une certaine façon, je pense que l'attente de Dieu, c'est quelque chose de très important pour le croyant. Si nous n'avons pas cette attente au quotidien, nous n'allons pas progresser dans notre foi. Et c'est ce qui s'est passé avec ces chefs religieux dans Jean chapitre 5. Comme ils n'attendaient pas Dieu, voilà, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Ils ne pouvaient pas progresser dans la connaissance de Dieu. Et j'ai envie de dire que si, en tant que croyant, il n'y a plus d'attente de la part de Dieu, c'est très tragique. Puisque dans ce cas, on ne peut plus avancer avec Dieu. Or, j'espère que Dieu nous donne vraiment ce discernement spirituel que Siméon avait pour voir derrière les apparences de notre quotidien l'œuvre de Dieu. Nous pouvons voir l'œuvre de Dieu parce que Dieu agit. L'attente de Dieu est essentielle, est importante pour moi en tant que croyant. Alors, comment, en tant que croyant, je peux attendre? Il y a un passage, un verset dans Matthieu chapitre 25. C'est un extrait de la Bible que l'on connaît très bien. Il s'agit de la parabole des dix vierges. Je ne vais pas relire tout le récit. Je vais juste lire le verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment attendre? La réponse à la question se trouve dans ce petit verset. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà, vous pouvez dire que oui, là, on ramène le sujet de l'attente de Dieu à son retour. Bien sûr, dans l'attente de Dieu dans la Bible, il y a le retour aussi. Mais je crois que la réponse est plus générale que ça. Veillez. C'est la seule manière de vivre sa vie de croyant dans la perspective de l'attente de Dieu. Si on veille, on sera prêt, on sera disposé à voir Dieu à l'œuvre chaque jour dans notre vie. Et si on veille aussi, on sera prêt pour son retour, quel que soit le moment. Donc du coup, on retrouve les deux dimensions de l'attente du croyant dans cette réponse. Et cette même idée, on la retrouve dans ce que l'apôtre Pierre nous dit au verset 8 de la première épître de Pierre, chapitre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi est là pour utiliser n'importe quoi dans notre quotidien pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de voir Dieu. Alors, La solution, c'est de veiller. Veiller parce que lorsqu'on veille, on attend cette manifestation de Dieu dans sa vie de tous les jours, dans ce monde, dans son église, dans ses relations, dans sa famille, dans son travail, dans tous les aspects de notre vie. Et si on veille aussi, on attend ce grand jour où la pleine révélation de Dieu sera manifeste. Et nous pouvons attendre parce que c'est une promesse que Jésus-Christ nous a faite. L'attente du croyant au quotidien, c'est aussi une promesse. Dans le psaume 9, verset 11, nous lisons ceci. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et au verset 25 du psaume 35, le psalmiste dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Dieu ne nous abandonnera pas. Et donc, s'il ne nous abandonne pas, c'est qu'il se manifeste, il agit au quotidien dans notre vie. Et pourquoi nous ne le voyons pas? C'est notre disposition qu'il faut remettre en question. Sommes-nous disposés à voir Dieu? Et nous pouvons attendre le retour, le grand jour de la révélation finale. Jésus nous l'a promis dans Jean chapitre 14, les versets 2 et 3. « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Veiller, c'est important pour nous, pour que nous soyons prêts, quel que soit le jour du retour. Veiller, c'est ne pas enfermer Dieu dans notre cadre religieux, dans notre raisonnement, nos idées préconçues. Veiller, c'est ne pas se laisser assoupir par le temps qui passe. Veiller, c'est ne pas se laisser user par le découragement, les difficultés de la vie. Veiller, Henri nous l'a rappelé aussi avant, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu malgré les apparences. Siméon aurait pu dire que ce petit enfant est venu dans ce monde dans une mangeoire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ses parents ne sont pas connus, ce ne sont pas des stars. Alors pourquoi je devrais aller à ce temple, au temple à ce moment-là? Mais non. Ce n'est pas Siméon qui conduisait les choses. Je crois que lui, d'une certaine façon sa part, il s'est préparé à ce moment. Et quand le moment était venu, l'Esprit de Dieu est allé le chercher. Et donc veiller, c'est pour savoir renouveler son trésor personnel. C'est ce que Siméon a fait. Ce trésor personnel qui est symbolisé dans la parabole des 10 vierges par l'huile. Et ce trésor, c'est cette préparation, cette disposition spirituelle à reconnaître la réalité de Dieu. Notre réalité est souvent très différente de celle de Dieu. Mais celle de Dieu est aussi là. On doit pouvoir voir cette réalité, même si parfois c'est vraiment difficile de nous détacher de notre réalité. Si nous avons ce discernement spirituel, nous la verrons. Éveiller, finalement, c'est être ouvert à la grâce de Dieu qui agit dans ma vie et dans celle des autres. Nous trouvons aussi cette image de l'Église, l'épouse qui attend Dieu en veillant. Nous retrouvons ça à la fin de la Bible, comme je l'avais souligné au début. Dans Apocalypse, chapitre 22, les versets 20 et 21. Dans ce passage, l'Église nous est présentée comme étant dans l'attente. l'Église se pare de fin lin resplendissant et pur. Et avec l'aide de l'Esprit, cet Esprit qui a conduit Siméon au temple, au bon moment, avec l'aide de l'Esprit, nous voyons l'Église qui exprime son désir de voir le marié. Au verset 17 du chapitre 22, l'Esprit et la mère et la mariée, pardon, l'Esprit et la mariée disent « Viens ». Et un peu plus loin, au verset 20, il y a encore cet appel « Amen, viens Seigneur Jésus ». Ce passage complète la réponse que nous, à la question « Comment attendre ?» que nous avons vue au verset 13 du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Ce passage complète cette réponse avec le verset 21. Ce sont les dernières paroles de la Bible. Avant, il y a cet appel « Amen, viens Seigneur Jésus » et tout de suite après, « Que la grâce soit avec vous ». D'une certaine façon, en mettant ces deux éléments ensemble, nous pouvons dire que attendre pour le croyant, attendre Dieu, Dieu qui est là aujourd'hui et qui vient bientôt, nous devons l'attendre en veillant dans la grâce. La grâce de Dieu est au début de ma relation avec lui. La grâce de Dieu est là pour moi durant toute ma vie dans ce monde. Elle sera là à la fin. Et cette grâce est suffisante pour moi, pour vivre ici-bas et pour me conduire à la pleine révélation. Attendre Dieu, c'est être dans cette disposition spirituelle pour voir ce qu'il fait dans ma vie, dans ta vie, dans mon entourage, dans la vie de mon Église. Et aussi, voir cette grâce de Dieu, comment cette grâce de Dieu amène les gens de mon entourage, les gens qui ne connaissent pas Dieu, à vivre ce que je vis déjà au niveau de cette communauté. Alors, mon désir, je crois que ça, c'est le désir de chacun de nous ce matin, c'est de voir Dieu. Voir Dieu dans nos difficultés, mais aussi voir Dieu quand tout va bien aussi dans notre vie. Parce que je crois que quand tout va bien, Dieu est là. C'est peut-être notre problème. Je peux parler pour moi, peut-être mon problème. Quand tout va mal, quand ça ne va pas bien, plus cette envie de parler à Dieu, de lui dire « Manifeste-toi !» alors qu'il le fait déjà. Et quand ça va, quand ça roule, il n'y a pas ce désir. Et pourtant, il est là aussi. Dieu est là et il vient. Alors que Dieu nous aide en tant que communauté de croyants à l'attendre aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour de notre vie, en veillant dans sa grâce. Je vous invite à un moment de silence, et puis après, je vais terminer par la prière.